9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, et on prend soin de votre santé pendant tout ce mois de Ramadan avec notre invité. Aujourd'hui, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Médecin généraliste, en quelques années, vous êtes devenu l'un des médecins préférés des Français.
Oh là, déjà, que de compliments.
Attendez,
l'émission
commence.
Très bien.
Et vous publiez Zéro Contrainte chez Flammarion. Surtout, ne changez rien. Patrick Soulaye est avec nous. Hola Patrick.
Hola Philippe, hola tout le monde, hola Jimmy.
Bonjour Patrick.
Bien, alors vous avez lu le livre de Jimmy, 48 astuces, Zéro Contrainte, toutes validées scientifiquement pour rester en bonne santé sans effort. Ce matin, c'est plutôt toilette de chat ou douche?
Ah, c'est vrai qu'on se pose toujours la question.
Ah non, moi je me la posais jamais avant d'avoir lu votre livre.
Bah, c'est vrai qu'on est dans un monde un peu hygiéniste où on se dit qu'il faut faire la douche beaucoup, tous les jours, de façon un peu intense, faut bien se frotter, faut bien se décaper. Or, on se rend compte qu'en faisant ça, on abîme notre peau. Et que l'idée, peut-être, c'est de faire plutôt la toilette de chat, c'est-à-dire de faire le minimum syndical, et qu'on n'est pas obligé de l'agresser en permanence, encore plus lorsqu'on souffre de sécheresse cutanée, ce qu'on appelle de l'eczéma. L'idée, c'est de se dire qu'on a des petites bactéries sur la peau qui forment ce qu'on appelle le microbiote. C'est la flore cutanée, comme la flore digestive. Et lorsqu'on utilise trop de savon, de l'eau un peu trop chaude, trop régulièrement, eh bien on va abîmer ce film cutané au niveau de la peau et par conséquent, on va l'agresser. Et l'idée, c'est peut-être de ne pas faire la douche tous les jours. On peut le faire tous les deux jours, ça suffit largement. En particulier chez les enfants qui ont des problèmes de peau, avec un savon sans savon, c'est des huiles lavantes, pour justement préserver notre peau. Ça, c'est zéro contrainte.
Alors, tous ceux qui pensent que 2-3 douches par jour, on est plus propre.
Et non, on agresse la peau, elle n'aime pas ça. Et vous allez voir que plus vous allez stimuler cette peau, plus elle va devenir un peu grasse, comme pour les cheveux. Si on se lave trop les cheveux, eh bien, au bout d'un moment, on a plus de pellicules. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK,
c'est on va fou, le faire. Parce qu'on pense que c'est l'inverse.
Ouais, on pense que c'est l'inverse. On est dans un monde hygiéniste où on nous a dit pendant très longtemps, il fallait impérativement se laver les mains, faire attention. Ça a peut-être un peu renforcé l'angoisse à ce propos de l'hygiène. Donc, oui, il faut être propre, évidemment, mais pas d'excès. L'excès est toujours néfaste.
On peut être propre sans prendre forcément une douche par jour et se laver au gant de toilette comme on le faisait.
Le visage, les parties intimes, sous les bras, les zones clés en quelque sorte. Ouais. Et puis pour le reste, en particulier chez les enfants, et surtout quand lorsqu'il fait froid, c'est pas la peine de se toucher tous les jours.
Et alors le petit tube qui sent bon là pour se laver, c'est une bonne idée là de choisir son savon en fonction de l'odeur.
Non, c'est vrai que c'est le premier réflexe qu'on fait. On est dans les rayons de supermarché.
Hop.
On ouvre et on sent. On se dit ah là c'est bien, c'est vanille. Ah là j'aime bien. On sent un peu la lavande. Non, c'est une erreur. Il faudrait normalement éviter les parfums. Les parfums vont venir agresser la peau. Ils vont être irritants. Et donc on devrait normalement ne pas choisir un savon en fonction de son odeur, mais plutôt de sa composition. Et le plus souvent, on va prendre les petits savons du côté du sud, là, une ville près de Nice, voilà, vous voyez où je veux dire, ça agresse la peau. Et c'est trop gras. Et c'est pas adapté, justement, aux enfants et aux adultes qui auraient en plus de la sécheresse cutanée. Donc voilà, c'est des choses de base, mais bon, moi aussi j'ai commis ces erreurs, hein, je vais pas mentir.
Sur TikTok, vous avez débarqué sur TikTok,
hein. Ouais, il y a 3 mois, c'est très rigolo TikTok.
Ouais.
Bah, je pensais au début que c'était que pour les jeunes, il fallait danser, mais non, on peut apprendre des trucs sur TikTok. Moi, je m'étais dit, c'est que des chorégraphies de petits jeunes.
Ah, j'en ai vu qui dansaient pas, qui se sont mis à danser avec plus ou moins de...
Non, alors,
en tout cas, il... vous avez des noms, Patrick?
Oui, j'ai certains noms, mais il va falloir donner des cours d'épaule au niveau de la danse, il va falloir.
Ah ouais, mais le jour où vous me voyez danser, Philippe, vous me bloquez TikTok, hein. Non, mais je ne danserai jamais sur TikTok.
Je vous alerte avant, hein.
Non.
Alors, vous donnez des conseils médicaux pour le mois de Ramadan, et un des principaux problèmes, si ce n'est pas le principal de ce mois, c'est la désorganisation du sommeil. Ça tombe bien puisque c'est le premier chapitre de votre livre. Lever tôt, coucher tard avec le ventre plein. Alors comment on fait pendant ce mois de Ramadan pour éviter ce phénomène de jet lag pendant 30 jours?
C'est vrai qu'on va avoir tendance à se décaler petit à petit puisqu'on va manger assez tard le soir. On a l'impression que la soirée passe extrêmement vite et donc on va un petit à petit décaler son réveil. On se couche un peu plus tard et on va se lever aussi un peu plus tôt pour prendre le repas du petit déjeuner juste avant le lever du soleil, qui est le repas le plus important. Et par conséquent, ça va être difficile. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, le soir, je vais un peu ménager mon estomac et je vais manger progressivement. On a tendance à commettre l'erreur de manger très très vite, en très grande quantité, parce qu'on a très faim. Et on se rend compte qu'au bout de 15 minutes, on va exploser, on n'en peut plus. Donc, commencez par un petit bouillon. Vous mangez légèrement. Ça permet à votre estomac de se dire, OK, il y a de la digestion qui va se mettre en place. Vous faites une petite pause. Vous commencez ensuite à manger. N'oubliez pas les fruits et les légumes. Souvent, on mange beaucoup de féculents, très peu de légumes. On refait une petite pause. Si possible, on va essayer de marcher un petit peu, si on a 15 minutes simplement, pour digérer. Et on se couche le plus tôt possible pour se lever tôt, remanger. Et en journée, on n'hésite pas à faire une petite sieste. 20 minutes. 15 minutes, même 10 minutes si vous le pouvez. Ça vous permet de recharger les batteries et d'avoir notamment des maux de tête en fin de journée qui sont la conséquence de cette fatigue.
Mmh. Hors Ramadan, vous êtes adepte de ce qu'on appelle le Nappuccino.
Ouais, c'est Shkoun, pas mal ça.
Le Nappuccino.
Nappuccino, c'est la contraction entre take a nap, ça veut dire faire une sieste, et un cappuccino, de prendre un café. L'idée, alors c'est à faire de façon ponctuelle. Si à un moment, vous avez une énorme journée, vous devez être absolument travaillé, mais vous avez passé une mauvaise nuit, vous êtes fatigué, et que vous avez simplement 20 minutes pour vous reposer. C'est de prendre un café, de faire une sieste immédiatement après avoir bu le café.
Mais jamais entendu ça. Vous buvez le café, je croyais que ça empêchait de dormir.
Mais sauf que la caféine, elle va marcher au bout de 20 minutes. Et donc, vous allez vous réveiller au bout de 20 minutes avec ce double bénéfice, à la fois de la sieste que vous avez faite, et puis du café qui va vous délivrer de la caféine, qui va vous redonner de l'énergie. Des sportifs de haut niveau font ça, notamment dans des compétitions. Raphaël Nadal le pratique. Encore une fois, ça ne doit pas être un mode de vie, mais de façon ponctuelle, on peut s'aider de ça lorsqu'on a une très grosse journée.
Vous expliquez que quelqu'un comme Léonard de Vinci, par exemple, dormait comme ça, en fait.
Ouais, il faisait des micro-siestes, il faisait des tout petits... Alors lui, c'est très particulier. Certaines personnes vont avoir besoin de très peu de sommeil. Et Léonard de Vinci, lui, dormait de façon très fractionnée. Toute la journée, il faisait des toutes petites siestes, il dormait une, deux, trois heures, il se réveillait. C'est à déconseiller, mais c'est l'idée de se dire qu'il ne faut pas oublier qu'en journée, quand on est fatigué, eh bien, il faut se reposer. Un dernier conseil. Chez les enfants, on peut observer parfois, lorsqu'ils sont en classe, que tout d'un coup, ils vont mettre la tête dans les bras, ils vont faire semblant de dormir. C'est ce qu'on appelle des pauses parking. Lorsque vous voyez un enfant faire ça, ne le réveillez pas. Ne lui dites pas « Oh, lève-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il est en train de recharger son attention. C'est pas un feignant, c'est que son organisme a compris qu'il fallait être plus attentif et pour ça, il faut se reposer un petit peu. Donc quand on voit un enfant faire ça, on le laisse. Ça va durer 2 ou 3 minutes, il va recharger son attention, il sera beaucoup plus alerte et à ce moment-là, plus à même d'apprendre les cours.
Mais du coup, ça, c'est lié juste aux enfants ou c'est lié même aux adultes? Parce que moi, par exemple, quand je forme, je sais qu'à partir de 15 heures, c'est compliqué de tenir les gens.
Eh ben oui, ben justement, parce qu'il se passe quelque chose entre 13 heures et 15 heures. C'est le moment où notre température corporelle commence à descendre. Lorsque la température corporelle descend, c'est le moment où notre vigilance est la plus basse. Et on sait qu'après le repas, il y a la digestion qui prend énormément d'énergie. Tout le sang va être redistribué vers le tube digestif pour la digestion. Et par conséquent, on a ce coup de barre. Donc entre 13h et 15h, c'est le moment où on ne devrait pas faire des trucs trop intellectuels. C'est le moment où on devrait être un peu à la cool, se reposer. La productivité, le moment où les gens sont le plus attentifs, c'est valable à la fois chez les enfants et chez les adultes, c'est le matin. De 9h à 11h, c'est le pic de productivité. Et puis ce pic, il va revenir aux alentours de 16, 17, 18h. Le moment où on va tous être dans les embouteillages, alors qu'on devrait certainement profiter pour être productif. Et c'est là que les gens sont attentifs. Et c'est là que les enfants devraient se mettre au devoir.
Cycle circadien.
Exactement.
C'est les cycles de vie qu'on a tous, à la fois chez les adultes, les enfants. Plus on grandit, ou même chez les plus vieux, on a une horloge biologique qui définit la journée et la nuit et nos habitudes de vie.
Mais là, pendant le mois du Ramadan, pour ceux qui pratiquent le jeûne, il n'y a pas le coup de barre d'après déjeuner.
Non, c'est vrai. Et au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, on tient pas mal. À partir de 13, 14 heures, on n'a plus ce coup de barre. Et on se rend compte, peut-être, c'est une façon de revoir les choses, de se dire, peut-être que notre mode de consommation était inadapté. Peut-être qu'on mangeait un peu trop en temps normal. Peut-être que ce repos digestif, ou ce jeûne intermittent que certains vont faire hors période de Ramadan, il est bénéfique pour notre corps. Et de se dire, ok, l'idée, c'est pas de se blinder le soir et de faire n'importe quoi, c'est de réapprendre à manger, un rééquilibrage alimentaire pour, encore une fois, vivre en bonne santé, parce que c'est l'objectif.
La durée idéale, pardon Patrick, d'une sieste, parce que parfois, enfin, au début du mois de Ramadan, la sieste, elle peut durer 3 heures.
Hein. Alors, si elle dépasse 20 minutes, vous allez tomber dans une phase d'un sommeil lent profond, qui va durer beaucoup plus longtemps, et si vous ne vous réveillez pas, ou si vous n'allez pas au bout du cycle, vous allez être complètement décalé et vraiment dans le mal. Et à l'inverse, si vous allez au bout du cycle, vous dites « Ok, je tabasse ma sieste, ça va durer 2 heures et je vais dormir même 3 heures. » Qu'est-ce qui va se passer le soir? Eh bien, votre pression de sommeil va être moins élevée et vous allez avoir du mal à dormir. Vous allez vous coucher plus tard, vous allez vous réveiller fatigué, vous allez refaire une sieste et donc vous allez vous décaler petit à petit. Vous allez être de mauvaise humeur, vous n'allez pas profiter de la journée puisque c'est pas parce que c'est le Ramadan qu'on doit rien faire, c'est pas parce que c'est le Ramadan qu'on doit pas travailler, on doit essayer d'avoir une vie la plus normale possible. Et donc, ça passe par une hygiène simple, sieste 20 minutes au grand maximum.
Et on peut faire plusieurs siestes dans la journée?
Alors, l'idéal, c'est au-delà d'une sieste, on se dit, ok, c'est que j'ai un problème de sommeil. Et donc, mieux vaut régler le problème de sommeil. Ça peut être ponctuel. deux fois dans la journée si vraiment c'est très difficile. Mais au-delà, c'est qu'on a désorganisé son sommeil et l'idée, c'est plutôt de miser sur la nuit.
Patrick ?
Oui, j'avais en fait quand vous parliez, je me disais mais c'est fou parce que il y a aussi un peu le même phénomène quand on fait du sport en fait, parce que moi je fais du sport et souvent les gens ils me disent mais Patrick c'est le Ramadan pourquoi tu fais du sport, et je me suis rendu compte qu'en fait même peut-être en termes de longueur on peut pas faire autant, mais en termes de performance en fait ça change pas grand chose. Comment on explique ça?
Bah c'est vrai que on se dit toujours sport et Ramadan c'est incompatible. Alors attention, l'idée c'est quand même de pas se blesser, de pas être déshydraté, de faire des efforts très importants à haute intensité pendant très longtemps. Mais il est possible de pratiquer l'activité physique pendant le Ramadan. À vous de choisir à quel moment vous êtes le plus en forme. Certains ça va être le matin, juste après avoir mangé. D'autres ça va être plutôt le soir pour justement pouvoir récupérer. Donc l'idée de se dire c'est que OK, c'est possible, mais peut-être en faisant ça 2 à 3 fois par semaine, on met pas une intensité très importante, on dépasse pas 30-45 minutes. Et oui, l'activité physique et sportive est possible. On sait que certains sportifs de haut niveau font le jeûne et du sport, donc c'est possible, mais encore une fois avec quelques adaptations et des conseils peut-être auprès de vraies personnes, des coachs qui ont l'habitude de suivre des gens.
Pour ceux qui ont des problèmes de sommeil et des problèmes à s'endormir, dans votre livre, vous présentez une méthode, hein, la méthode 4-7-8. Hein, donc, on va pas en parler maintenant. Il faut lire le livre, on va pas spoiler, mais
c'est, on peut y aller, hein.
Ouais, c'est pas compter les, on compte pas les moutons.
Mais presque en quelque sorte. Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'on est en journée, on est très actif, on va être sur les écrans, on va être énervé. Puis tout d'un coup, le soir, en un claquement de doigts, faudrait dormir. Or, on oublie qu'il faut une période de transition. Cette période de transition, chez les enfants, c'est le rituel. On les met en pyjama, on leur brosse les dents, on leur lit une petite histoire, et puis on les couche. On se prépare un temps calme. Et nous, on a besoin de ce temps calme. Et donc, il y a une technique, c'est un Américain qui a mis ça en place, 4-7-8. Vous allez prendre une inspiration pendant 4 secondes lorsque vous êtes allongé au calme dans le lit sans téléphone. Donc, on prend une inspiration sur 4 secondes. On bloque la respiration pendant 7 secondes, donc on reste en apnée. Et puis on expire sur 8 secondes. En faisant ça, sans vous en rendre compte, vous allez chasser les pensées négatives. Votre cœur va un peu ralentir, c'est ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Et par conséquent, lorsque vous faites ça 3-4 fois, ça va durer 1 minute 30, eh bien, vous allez vous endormir plus facilement, sans médicaments, sans stress. Donc c'est une technique qu'on peut faire aussi lorsqu'on est énervé en journée, dans les embouteillages, ça marche aussi.
Docteur Jimmy Mohamed est notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, on vous donne des conseils pour votre santé et le mois de Ramadan, aujourd'hui avec le docteur Jimmy Mohamed, qui est notre invité médecin généraliste et qui publie Zéro Contrainte aux éditions Flammarion. Surtout, ne changez rien, old is the new tendant. Hein, faut faire comme avant, quoi. C'est du bon sens.
Ouais, revenir à la base, c'est vrai que maintenant on cherche toujours des trucs hyper compliqués, on veut absolument être performant, alors qu'on oublie que la base, c'est probablement ce qu'il y a de plus simple. Dormir, manger équilibré, éviter de fumer, éviter d'être trop sur un écran, essayer de méditer parfois. C'est des choses de base, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où on veut être à tout prix performant. On a plein d'outils compliqués, des gadgets sur le téléphone. On sait même plus calculer sans une calculette. Mais il faut ne pas oublier que, bah oui, on a un cerveau, il faut s'en servir, il faut le stimuler.
Maintenant, le mois du Ramadan, c'est sur appli, hein.
Bah oui, c'est vrai que c'est sur appli, on n'a plus de papier. Moi, je suis nostalgique du papier quand même, hein. J'ai besoin du papier, du livre d'ailleurs. Et on s'est rendu compte d'ailleurs, c'est intéressant parce que désormais les enfants ils apprennent sur des tablettes en permanence et on se dit c'est mieux. Et bien les études prouvent que lorsqu'on apprend une leçon avec un livre, et bien les acquisitions sont meilleures sur un livre que sur une tablette. Pourquoi ? Puisque finalement lorsque vous avez un livre, vous allez le sortir, vous allez l'ouvrir, on va aussi avoir une odeur particulière du livre, on va le toucher, on va stimuler plusieurs sens alors que la tablette c'est juste le doigt. Et donc finalement peut-être qu'il faut revenir à la base, le livre, le papier, le stylo...
Et lire, c'est bon pour la santé.
Exactement.
Ça sera l'objet d'une autre émission. Patrick Soulaye est avec nous aujourd'hui également. Alors, expliquez-nous cette question des migraines. Alors, on entend beaucoup de gens se plaindre de maux de tête et plus particulièrement de migraines, hein, la première semaine du mois de Ramadan. Quel lien, justement? D'abord, est-ce que ce sont vraiment des migraines ou ce sont des maux de tête?
Alors, la migraine, c'est 10 à 15% de la population mondiale. C'est une des maladies chroniques les plus fréquentes au monde. Elle est souvent sous-diagnostiquée. Les gens ne savent pas qu'ils sont migraineux. La migraine, je vous rappelle, c'est très simple. C'est des maux de tête qui vont durer entre 2-3 heures jusqu'à 12 heures, qui vont toucher la moitié du crâne. Le cœur va battre dans la tête, c'est-à-dire que ça va lancer. On a l'impression que ça pulse. On va avoir de la nausée, la lumière va gêner et on a besoin de se reposer pour pouvoir que la migraine passe. Ça, c'est la vraie migraine. En période de Ramadan, les premiers jours, les gens vont se plaindre de migraine. Pourquoi ? La première des choses, c'est qu'on a une consommation de café, de thé, de cigarettes, d'excitants, qu'on va devoir arrêter tout d'un coup. Ça entraîne ce qu'on appelle un sevrage. On a une addiction à la caféine. La caféine, on a dans le café et dans le thé, sous forme de théine. On a l'addiction à la nicotine, et dès lors qu'on va arrêter une consommation un peu trop importante, au-delà de 2 à 3 tasses de café par jour, au-delà de 5 cigarettes par jour, eh bien ce sevrage va donner des maux de tête. Et on va se rendre compte, au fur et à mesure que les jours passent durant le ramadan, qu'on a de moins en moins ces symptômes, parce que finalement on va réduire notre consommation de café, réduire notre consommation de cigarettes, preuve qu'on est addict à ces produits. Et c'est de prendre conscience que la cigarette, peut-être qu'il faut réfléchir, peut-être qu'il faut se poser des questions, se dire, est-ce que je veux arrêter? Quel bénéfice m'apporte la cigarette et quel risque elle m'amène? Si je suis dans cet état pendant le ramadan à cause de la cigarette, c'est peut-être qu'il y a un souci.
Donc c'est une question de sevrage, il n'y a pas de lien entre caféine et migraine.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine, c'est un très bon anti-migraineux naturel. On conseille à des migraineux, parfois, de prendre des comprimés qui contiennent de la caféine. Et donc un patient migraineux qui finalement va très bien avec du café, dès lors qu'on lui retire ce café, eh bien les crises de migraine peuvent arriver. Dans ces cas-là, c'est de l'anticiper, normalement d'essayer le soir d'éviter de prendre le café. Et je vous donne une astuce qui marche très bien, c'est les neurosciences qui l'ont prouvé. Si jamais vous prenez un expresso, et si vous prenez ce même expresso, mais que vous ne le buvez pas, juste vous le sentez, c'est-à-dire vous respirez l'odeur du café, les effets sur votre cerveau sont exactement les mêmes. On peut tromper notre cerveau juste avec l'odeur du café. Donc le soir, plutôt que de prendre un café qui va décaler votre sommeil, qui va retarder l'endormissement, qui va vous remettre du sevrage le lendemain matin, puisqu'on a envie de nouveau ce café, le café c'est bon, juste sentez-le. Je suis sûr que rien qu'en parlant
c'est
de café...
C'est du masochisme.
Mais on le sent. Et du coup, il se passe un truc dans le cerveau. Je vous assure, essayez ça. Sentez le café, ne le buvez pas. Vous allez avoir les effets positifs du café sans rompre le jeûne et sans migraine.
Bien, on va essayer pour les plus courageux.
Mais du coup, il faudra demander à l'imam si on a le droit de sentir pendant la journée.
Je sais pas si c'est trompé, je sais pas si c'est cassé le ramadan.
Est-ce que sentir c'est trompé?
On a le droit de
vous poser la question.
On va falloir qu'on choisisse l'imam à qui on va poser la question. Si, par exemple, après la rupture du jeûne, on boit la même quantité de café que d'habitude en journée, est-ce qu'on arrive à leurrer notre cerveau et justement à conserver ce même taux de caféine?
Mais non, parce qu'il va y avoir une descente assez rapidement. La caféine, elle va agir très vite dans le sang et puis elle descend très rapidement. Au bout de quelques heures, il n'y a plus de caféine. Contrairement au thé, dont la libération est beaucoup plus prolongée. Ce qui veut donc dire que le café que d'habitude on prend le matin, le midi, l'après-midi, en fin d'après-midi, on ne pourra pas le remplacer par 3 cafés à partir de 20h30 en disant je vais rétablir le quota. Vous allez moins bien dormir, vous allez avoir des aigreurs d'estomac. Faut pas oublier que la caféine et le café, ça peut irriter. On va dire tiens, j'ai du reflux, je comprends pas. Bah oui, mais si t'as bu 4 cafés en 4 heures, forcément, tu vas avoir des régurgitations. Et puis, on va perturber notre sommeil. Et le lendemain, vous allez avoir les maux de tête. Donc, c'est complètement perdant. Honnêtement, miser sur un café au grand maximum, c'est le max que vous devriez faire. Ça va être difficile quelques jours. Et puis après, vous allez vous habituer, surtout voir les bénéfices justement de l'arrêt du café durant le ramadan.
Est-ce qu'il y a une question d'hydratation en fait qui pourrait justement expliquer les migraines
complètement
de ce début de mois de ramadan?
Il y a plein de facteurs déclenchants, à la fois des maux de tête et de la migraine. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment, eh bien vous êtes déshydraté et un des signes de déshydratation, c'est les maux de tête. Donc si jamais vous ne consommez pas de café, que vous n'êtes pas migraineux et que vous ne comprenez pas pourquoi à 17-18 heures vous avez très mal à la tête alors que vous avez plutôt bien dormi, c'est que vous manquez d'eau. Évidemment, il faut se rattraper le soir et miser sur l'hydratation sous toutes ses formes. L'hydratation, ça passe par de la soupe. On oublie que boire, c'est pas que de l'eau. Ça peut être boire un bouillon, une chorba, ce que vous voulez. Il y a déjà de l'hydratation. C'est boire de l'eau, pas de l'eau gazeuse, pétillante, sucrée. On évite les sodas,
c'est
les
colas. C'est pas de l'eau, de toute façon.
C'est pas de l'eau. On va se déshydrater, on va se charger en sucre de façon inadaptée. Tout le bénéfice de la restriction calorique de la journée, vous allez le perdre en buvant un truc bourré de sucre. Ça sert strictement à rien. Manger des fruits et des légumes, c'est tout bête, mais dans la pastèque, vous avez de l'eau. Dans le melon, vous avez de l'eau. Mangez une compote, des choses de base qui vous permettent de vous hydrater, d'avoir l'équivalent d'un litre 5 à 2 litres d'eau dans votre organisme pour que la journée du lendemain, et si possible avant le lever de l'aube, reboire de l'eau et que ce soit le moins difficile possible.
Donc ce que vous dites, en gros, c'est que pendant le mois de ramadan, c'est un bon moment pour revenir aux bases. Parce que tout ce que vous dites, c'est revenir aux bases.
Exactement, et j'observe des recettes de cuisine en ce moment, spécial ramadan. Alors c'est vrai que c'est cool, ça cartonne sur les réseaux. On voit des trucs, ouah, ça a l'air magnifique, des bad boot et du pain maison. Il n'y a que des féculents. Regardez, il n'y a pas un gramme de légumes.
Le bad boot, c'est léger, parce que quand tu trempes le bad boot dans ta soupe, en plus, t'as pas du tout l'estomac qui gonfle. Pas du tout.
Mais oui, non, mais c'est vrai, mais il n'y a que des féculents. Manger des fruits et des légumes, c'est pas interdit. Et on va se rendre compte dans quelques jours qu'à force de manger des féculents, eh bien, on est constipé. On a mal au ventre. On a du reflux.
Et on flatule en plus.
Et pourquoi? Parce qu'on mange très vite. On oublie que le début de la digestion commence par la mastication. C'est vrai que c'est le soir, on a très faim, on va manger très vite. Or, lorsque vous ne mâchez pas correctement les aliments, lorsque vous avalez, vous engloutissez de façon très rapide, vous allez donner à votre estomac et à votre tube digestif une charge supplémentaire pour la digestion. Dans le ventre, ça va fermenter, ça va produire des gaz, des ballonnements et de l'inconfort. Donc, on prend son temps pour manger. On mange doucement, en famille, on partage les repas pour ceux qui peuvent, et puis on prend le temps de mastiquer. C'est le début de la digestion.
Vous qui n'êtes pas un anti-paracétamol, vous expliquez que finalement, le paracétamol sur la migraine, ça ne sert à rien.
Ben non, ça marche pas le paracétamol, c'est pas le traitement de la migraine. Si jamais vous avez des maux de tête qui passent avec du paracétamol, eh bien c'est que vous n'avez pas de migraine. C'est que vous avez juste des maux de tête. Bon, et peut-être qu'il y a l'effet placebo du paracétamol et que vous êtes juste un peu fatigué. Le vrai migraineux, celui qui a ces maux de tête dont on a parlé tout à l'heure, il doit prendre des anti-inflammatoires. Advil, ibuprofène, aspirine, kétoprofène, profénide, il y en a plein. Et c'est ces médicaments-là qui soulagent la migraine, à prendre le plus tôt possible, dans l'heure du début des maux de tête, puisque au-delà, ça ne marche pas, la migraine est installée, et à ce moment-là, c'est l'enfer.
On le rappelle, le repas le plus important pour bien gérer une journée de jeûne pendant le mois du Ramadan, c'est le repas du matin.
Exactement. On commet tous l'erreur de croire que c'est le repas du soir, on va se blinder, on va manger, on va manger, on va manger. Le plus souvent, on n'arrive pas à manger beaucoup. L'estomac, il est un peu rétréci. On est calé très très vite. Et on va se coucher, l'estomac un peu inconfortable. L'idée, c'est que le matin, on comprenne que c'est le repas le plus important. C'est le repas du matin qui va permettre de tenir toute la journée sans trop être fatigué, avec le maximum d'énergie. Et surtout, de miser sur des choses pas sucrées. Le petit déjeuner qu'on peut avoir occidental le matin, le croissant, le pain au chocolat... le lait,
café
les gâteaux,
au lait,
café au lait,
ouais, ça, c'est la confiture.
C'est la pire des choses puisque ça va entraîner un pic de glycémie, c'est-à-dire que votre taux de sucre va monter très vite dans le sang. Votre organisme ne va pas comprendre. Il va dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant de sucre dans le sang? Il va donc, en réponse à ce sucre, produire une hormone qu'on connaît bien qui s'appelle l'insuline. L'insuline, elle va dire ok, le sucre qui est en grande quantité, il faut qu'on le stocke. On a besoin de le stocker parce que là, c'est trop élevé. Qu'est-ce qui se passe? L'insuline monte. Le taux de sucre baisse brutalement et à 11h, on a faim. Donc si jamais vous consommez des choses très sucrées le matin, eh bien c'est le coup de barre et la faim assurée à 11h. Donc l'idée, c'est que, je sais que c'est difficile, mais le matin, il faut manger salé. Il faut manger du riz, des pâtes, du pain complet, des céréales. Alors pas les céréales, les chocs,
oui.
des vraies céréales pour justement
les chocs trucs, ouais.
Voilà.
céréales au chocolat qui ne sont surtout pas des céréales d'ailleurs.
Non, qui sont pas des céréales.
Les trucs extrudés.
Complètement, c'est des produits raffinés bourrés de sucre.
Ouais.
Manger de la dinde et du fromage et c'est comme ça que vous allez recharger toute l'énergie pour tenir toute la journée.
Bon, spécial dédicace au docteur de labo.
Ah oui,
voilà.
Et ouais, c'est le référent à la matière. Il a écrit un très bon livre d'ailleurs sur ça. Comment jeûner en période de Ramadan lorsqu'il fait chaud en particulier. Je vous le recommande vraiment, c'est un très bon livre.
Voilà, il faut le dire. Hein. Le doc qui nous a donné des conseils pendant toutes ces années, mais qui nous a appris à manger, à remanger salé le matin et surtout à manger, à faire un vrai repas.
Bah, ce matin, j'ai mangé moi des pâtes avec du saumon, un yaourt, du pain. Alors c'est vrai qu'au début, c'est un peu déroutant. Manger des pâtes à 5h du matin, c'est un peu dur.
Vous verrez dans quelques jours, ça sera vers 4h.
C'est vrai que ça va reculer progressivement.
Ouais. Mais non, on s'y fait, l'organisme s'y
fait. L'organisme s'y fait, et surtout si le soir on ne s'est pas blindé. Et parfois on va vouloir manger jusqu'au dernier moment, il est minuit, on se dit allez, je continue. Non, 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 ne mangez pas, mettez un réveil un peu plus tôt. Mangez, vous allez voir, vous allez tenir beaucoup plus facilement durant la journée et vous n'allez pas avoir ce creux à 11h, midi, 14h. C'est beaucoup plus simple comme ça.
Les polyvitamines là pour se booster un petit peu pendant le mois du Ramadan, c'est une bonne idée?
Complètement inutile, Ramadan ou pas Ramadan. Ces vitamines, elles vont surtout enrichir les laboratoires qui produisent ça. Je suis pas du tout complotiste, mais il faut reconnaître que c'est un business incroyable.
Ah, maintenant, il faut dire ça. Je suis pas du tout complotiste.
Non, mais quand on parle des labos, on se dit oh là là. Il faut comprendre que toutes les vitamines sont présentes dans une alimentation normale, en dehors de la vitamine D. Donc, si jamais vous achetez des polyvitamines. Eh bien finalement, votre organisme en a pas besoin, sauf situation particulière, les enfants qui sont dénutris à cause de certaines maladies, si vous souffrez de cancer, les personnes qui sont anorexiques. Mais pour le reste, si vous consommez des vitamines, elles vont simplement finir dans le tube digestif, être digérées lorsque vous allez aux toilettes. Et donc, ça ne sert strictement à rien. Vous allez dépenser de l'argent et avoir aucun bénéfice. Comprenez que le premier des médicaments, la première des vitamines, c'est l'aliment. C'est pas le comprimé que vous achetez à la pharmacie.
Voilà, vous publiez Jimmy Mohamed, Zéro Contrainte aux éditions Flammarion. Surtout, ne changez rien. Restez avec nous jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Conseil santé pendant ce mois de Ramadan, c'est Jimmy Mohamed qui nous donne ses conseils et qui publie d'ailleurs un livre pratique. Voilà, 48 conseils, zéro contrainte chez Flammarion, surtout ne changez rien. Patrick Soulaye est avec nous Et si vous voulez mesurer votre taux de flatulence pendant le mois de Ramadan, ça se mesure, hein, Jimmy.
Oui, ça se mesure, effectivement. Déjà, genre... On va vraiment parler de flatulence.
Non, mais c'est dans votre livre, on va pas en parler.
Des chercheurs ont justement cherché à savoir combien de litres de flatulence on avait par jour.
En litres en plus.
En litres, effectivement. Oui. Et donc, ça varie. Alors, Patrick, je crois que vous avez un petit problème qu'il faudrait consulter. Mais effectivement, on en produit beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors, ça, c'est tiré à balles réelles, c'était pas prévu.
Non, c'est okay. Vrai. En plus, okay. en plus, franchement.
C'est le secret médical, pardon. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais en plus, c'est surtout le secret médical.
Il y a un mythe qui tombe.
Enfin, voilà. C'est clair. Bon. C'est...
Une question qui revient beaucoup pendant le mois du Ramadan, c'est de savoir si on a un état médical, une santé qui permet de jeûner. Comment est-ce que vous répondez, vous, à ce genre de questions ?
Alors, tout d'abord, il faut comprendre que ça s'anticipe. Le Ramadan, c'est une fois dans l'année, c'est tout le temps, et ça arrive tout le temps quasiment à la même période, on sait exactement les dates, et donc il ne faut pas se réveiller trois jours avant le Ramadan. Au fait, est-ce que je peux jeûner ou pas ? La personne la plus... habilité à vous expliquer, à vous répondre ça, c'est pas moi, c'est pas votre tonton, c'est pas le voisin, c'est pas un ami, c'est votre médecin généraliste. C'est celui qui vous connaît. C'est celui qui vous suit et qui pourra vous dire en toute objectivité si vous êtes en mesure de faire le Ramadan sans entraîner des conséquences pour votre santé. Parce que vous pouvez jeûner même avec des maladies, mais si c'est pour finir à l'hôpital ou déséquilibrer une pathologie et qu'on se mette à courir après avec des médicaments, ça n'a pas de sens. Donc il faut bien comprendre que en fonction de la pathologie que vous avez, de la sévérité, des médicaments que vous prenez, vous pourrez ou pas faire le Ramadan. Certains vont me dire, je fais de l'hypertension, est-ce que je peux jeûner ?
Ça revient souvent, nous, c'est un grand classique, des questions des auditeurs pendant le mois du Ramadan.
L'hypertension artérielle, c'est un Français sur trois. Donc 30% des adultes en France sont hypertendus et c'est la maladie chronique la plus fréquente en France.
Le tueur silencieux, on l'appelle.
Exactement, parce que ça abîme les artères sur le très long terme et ça provoque des maladies cardiovasculaires, infarctus et accident vasculaire cérébral. Alors, si jamais vous avez une hypertension artérielle qui est bien équilibrée, ça veut dire que lorsque vous allez chez votre médecin, il vous dit vous avez 12, 13, c'est une bonne tension, monsieur ou madame, on est content. Si jamais vous prenez un seul traitement, eh bien effectivement, il semble raisonnable de pouvoir jeûner en prenant ce traitement le soir. Mmh. À l'inverse, si vous avez une hypertension artérielle qui est mal équilibrée, systématiquement, vous allez voir le médecin, vous avez 16, 17, 18, que vous avez 2 ou 3 médicaments, que vous devez prendre le matin, le midi et le soir, c'est impossible de tout prendre le soir. Attention, si on vous donne un médicament le matin et le soir, c'est pas pour tout enchaîner à 20h30, c'est pas des bonbons que vous prenez, c'est des médicaments. Il faut pas oublier que les médicaments ont des effets secondaires, et si vous prenez tous vos traitements anti-hypertenseurs contre la tension le soir, eh bien vous risquez l'hypotension et de faire un malaise, ou au contraire de déséquilibrer votre tension. Donc demandez conseil à votre médecin, il n'y a pas une maladie qui contre-indique le Ramadan, c'est votre état de santé et les traitements que vous prenez.
Et dans ces cas-là, c'est le médecin qui a la main.
Exactement.
C'est pas l'imam.
C'est pas ni l'imam, ni la famille, ni le voisin. Moi je l'ai fait, ça se passe très bien. J'ai la même maladie que toi, j'arrive à le faire. Encore une fois, il n'y a pas deux mêmes maladies, il n'y a pas deux patients identiques, il n'y a pas deux mêmes traitements. Et puis surtout, quelles conséquences vous allez avoir sur votre santé? Si vous avez un diabète, que vous allez complètement déséquilibrer pendant le Ramadan, on peut se poser la question de quel est l'intérêt dans ces cas-là? Quel est le risque pour votre santé? Si c'est pour avoir 3 grammes, 4 grammes, finir à l'hôpital ou avoir votre diabète qui va être déséquilibré pendant 6 mois, ça n'a pas de sens. Dans ces cas-là, le Ramadan n'est pas possible. Et c'est pas une honte. Vous avez une maladie qui contre-indique la pratique du Ramadan.
Mais il faut le savoir, c'est ça.
Il faut le savoir, il faut l'anticiper, il faut en parler à votre médecin, à l'endocrinologue, au cardiologue. Ce seront les personnes les plus à même de vous répondre. Ne prenez pas de risque pour votre santé. Le jeûne n'en vaut pas la chandelle. On ne vous a pas demandé de vous mettre en danger pendant le mois du Ramadan. On vous demande juste de jeûner si votre état de santé le permet. Si votre médecin le peut, vous le dit, ok, vous pouvez, bah allez-y, faites-le. Sinon, abstenez-vous.
Donc là, en fait, ce que vous dites, c'est juste aller voir le médecin généraliste ou pas besoin de faire de bilan en particulier ou
Non, on n'a pas besoin de faire de bilan en particulier pour savoir si on est apte à faire le Ramadan. C'est le médecin traitant. Il n'est pas trop tard pour aller lui demander. C'est pas parce que le Ramadan a commencé qu'on a fait 3 jours qu'on est obligé d'aller au bout. Si on se rend compte qu'on a du mal à le supporter, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben il faut aller voir le médecin traitant. On va faire le point. Et puis si on fait un bilan, on fait un bilan. Mais la plupart du temps, avec un interrogatoire, en 20 secondes, c'est réglé parce que c'est votre médecin traitant qui vous connaît. Il regarde l'ordonnance. Il vous dit, écoutez, madame, vous avez 10 médicaments à prendre. Vous avez une maladie cardiovasculaire, vous avez fait un infarctus il n'y a pas longtemps, c'est pas équilibré. Bah non, c'est pas possible. Ok, il faut l'accepter. Il faut avoir confiance en médecin de famille. C'est le rôle du médecin de famille.
Bon, vous savez que ça fait une semaine que je ne me gratte plus les yeux à cause de vous. Enfin, quand je me
bouge. Alors ça c'est un truc. Alors, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, hein, je ne vais pas mentir. Parce qu'on ne nous l'a pas appris quand j'étais tuteur en médecine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, de se frotter les yeux, alors on va expliquer, c'est très simple. On se frotte tous régulièrement les yeux. En particulier, quand il y a eu un peu de pollen, on va se frotter un peu les yeux de façon un peu appuyée. Sauf que c'est néfaste pour les yeux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a au niveau de l'œil une membrane qu'on appelle la cornée. C'est une couche qui normalement nous protège en quelque sorte et qui nous permet de voir correctement. Lorsqu'on se frotte les yeux de façon répétée, régulière, durant très longtemps, des années, on va déformer cette cornée et elle va avoir une forme un peu particulière sous forme de cône et provoquer ce qu'on appelle un kératocône. Le kératocône, c'est la déformation de la cornée, et le stade ultime de la déformation de cette cornée, eh bien, c'est la baisse de la vision qu'on ne pourra pas traiter avec des lunettes. On sera obligé de vous faire une greffe de cornée pour réparer cette cornée. Les lunettes ne marcheront pas, et donc l'idée, c'est de se dire, arrêtons de nous frotter les yeux un peu comme des barbares. C'est une façon simple de protéger sa vision.
Voilà. Bon, après c'est une contre-habitude à prendre. Hein,
exactement.
Voilà.
Et d'éviter normalement de dormir sur le ventre. Lorsqu'on dort sur le ventre, on se rend compte que les patients qui vont dormir sur le ventre ont plus de kératocône, la pathologie dont je vous ai parlé, que les autres. Donc
vous choisissez, ou vous ronflez, ou vous dormez sur le ventre.
Bah oui, c'est là où effectivement, bah c'est la peste de choléra.
C'est ça. Après c'est un choix. Hein.
C'est ça. Mais du coup, comment on peut savoir qu'on a, par exemple moi, ce que vous dites là, je le fais tout le temps. Alors moi, je peux savoir que
au premier stade de la maladie, il y a pas de symptômes. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte. Mmh. Et moi-même, en fait, c'est un ophtalmo qui m'a dit, mais vous êtes un frotteur. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il m'insulte de
franchement,
frotteur?
Franchement, ça,
non, il m'a dit, je suis un frotteur.
C'est comme si quelqu'un disait à Patrick qu'il flatule.
Ouais,
c'est vrai que c'est
pas cool.
C'est pas cool. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, bah oui, regardez, il a pris mes lunettes. À l'époque, j'avais des lunettes. Il les a posées sur la table et la lunette était complètement décalée. Il y a une branche qui ne touchait pas la table. Et donc, ça veut dire que j'avais ce mouvement où je surélevais la lunette pour me frotter les yeux. Et lors d'un examen simple, il a dit effectivement, sur la périphérie de votre cornée, on voit un début de kératocône. Donc, c'est pas très grave. C'est-à-dire que si on n'a pas de symptômes, tout va bien. Mais c'est de se dire, OK, je vais essayer si possible d'éviter de me frotter les yeux puisque sur le long terme, ça peut entraîner une baisse de la vision. Et ça, c'est l'ophtalmo qui fera le diagnostic.
D'accord, ok, donc voir l'ophtalmo.
Tout simplement, il ne faut pas hésiter à le voir l'ophtalmo. Même quand tout va bien, on fait des contrôles, en particulier à partir de 40 ans. Allez voir l'ophtalmo, même si vous dites bah, j'ai une bonne vision. Puisqu'on peut avoir d'autres maladies, là on parle du kératocône. Mais vous avez d'avoir de l'hypertension oculaire. Vous avez droit d'avoir d'autres pathologies de la rétine. Donc il faut faire des contrôles. En particulier si jamais vous avez des maladies cardiovasculaires, si vous avez de l'hypertension, du diabète, eh bien on sait que les yeux vont aussi souffrir de ces maladies. Donc on va voir l'ophtalmo, même en l'absence de symptômes. On fait un petit contrôle. Si vous dites écoutez, vous êtes venu pour rien, tout va bien. Eh ben non, vous n'êtes pas venu pour rien. Vous avez fait de la prévention.
Et comme vous dire, il faut se soigner avant d'être malade.
Exactement, c'est ce que je dis toujours. Pourquoi attendre d'avoir des symptômes? Pourquoi attendre d'être malade pour être en bonne santé? L'idée, c'est de se dire, OK, on n'est pas tous égaux face à la maladie, on le sait, malheureusement. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est comme ça. Mais peut-être qu'on peut aussi, nous, de notre côté, mettre toutes les petites astuces, tous les moyens possibles pour vivre le plus longtemps, mais aussi en bonne santé. L'idée, c'est d'arriver quand même à vieillir, mais en forme, pouvoir profiter, sortir, des enfants, des petits-enfants, profiter de bien manger, mais encore faut-il être en bonne santé. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, c'est la prévention.
Il y a deux chapitres que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, celui qui est consacré donc à la lecture, et puis celui qui est consacré au pouvoir du don. Ça tombe bien parce que le mois de Ramadan est un mois de générosité par excellence, et finalement, le cerveau aime la générosité.
Complètement, c'est le seul plaisir qui ne s'épuise pas. On le sait, on a remarqué notamment chez les enfants, à force de leur donner des cadeaux, au bout d'un moment...
Il y a une expérience d'ailleurs.
Et on a fait des expériences, à la fois chez les enfants et chez les adultes, à force de donner des cadeaux, bah, ils sont saoulés, quoi. Ils ne profitent plus. C'est l'adaptation hédonique. On sait qu'avec le temps, on s'habitue au plaisir et on oublie de profiter. Et du coup, on a mené des expériences chez les gens. On donnait à des gens une petite somme d'argent. Ils avaient deux possibilités. La première, c'est d'utiliser cet argent pour eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent. Acheter un café, un manger, un livre, peu importe. Et la deuxième, c'est de donner cet argent à qui ils veulent, mais quelqu'un qui aurait besoin de cet argent, quelqu'un qui serait dans le besoin. Mmh. Mais on fixe pas de critères pour savoir à quel point les gens sont pauvres. Et on se rend compte à la fin de l'expérience, après des questionnaires, on évalue le degré de bonheur, la satisfaction, que les personnes qui ont donné cet argent à quelqu'un d'autre ont plus de plaisir que les autres. Et donc finalement, on va ne jamais s'adapter et jamais s'habituer au fait de donner. Mmh. C'est la meilleure façon de chouchouter son cerveau, donner.
Et mesdames, vous avez de la chance parce que vous donnez plus que nous.
Exactement, et c'est des incroyables.
Plus généreuse. Ouais.
On a fait des IRM pour essayer de comprendre entre les hommes et les femmes quelle était la différence et qu'est-ce qui se passait dans le cerveau. Et on s'est rendu compte que lorsqu'une femme donne, il y a un circuit du plaisir qui s'active. C'est-à-dire que lorsqu'elle donne, une femme, elle le fait par pur plaisir et par pure générosité, sans attendre en retour forcément quelque chose. Ça ne veut pas dire que les hommes sont différents des femmes. Ça veut dire que peut-être aussi, on a éduqué. Les femmes, enfin les petites filles et les petits garçons, de façon à ce que les femmes soient très gentilles et les garçons profitent un peu pour eux-mêmes. Donc peut-être que dans l'éducation, on doit revoir les choses, remettre à zéro, de se dire, OK, on va éduquer et élever les enfants de la même façon, que ce soit des garçons et des petites filles, on va leur apprendre à être gentils avec les autres. C'est le début de la bonne santé.
Bon, il y a énormément de trucs dans votre livre, avaler un comprimé, ça s'apprend, on ne va pas expliquer comment. Il y a une chose J'aimerais qu'on partage ça. Moi, je milite beaucoup pour la diète numérique pendant le mois du Ramadan. Et vous aussi, en vous lisant, je comprends que c'est quelque chose qui vous embête.
Alors, faut bien comprendre que les réseaux sociaux, les téléphones font partie de notre vie. On va pas s'en débarrasser. Faut faire avec. Par contre, il faut essayer de vivre avec et d'essayer de les limiter autant que possible. Pour deux raisons. La première, c'est que vous avez des réseaux comme Instagram, c'est le culte du bonheur. Vous regardez ce qui se passe sur les réseaux, tout le monde a une super vie, des super repas, une super maison. Alors que quand on gratte, parfois, ils ont des problèmes, mais on va pas les exposer. Donc attention au bonheur parfois factice des autres qui vont vous rendre vous malheureux parce que vous dites, mais regardez ce qu'il a, sa vie, elle est géniale. On va créer de l'envie, on va se dire, mais ma vie, elle est nulle. Non, votre vie, elle est pas nulle. C'est juste qu'on décide de montrer un instant T ce qui se passe, mais on n'a pas avant et après. Et puis deuxième chose, les smartphones vont perturber le sommeil, et en particulier le sommeil des enfants, mais aussi celui des adultes. À partir de 20h, il faudrait normalement, chez les enfants, chez les adultes, balancer les téléphones, puisque ça va perturber votre sommeil, il faudrait pas s'endormir avec. C'est la meilleure façon que les enfants dorment moins bien durant la nuit, soient de moins bonne humeur le matin, et aussi moins performants à l'école.
Et un message santé, si vos enfants ont un écran de téléphone qui est ébréché,
réparez-le. Les téléphones cassés libèrent une substance chimique qu'on appelle du cadmium. Le cadmium, c'est un composé qui est présent dans tous les écrans, sauf que lorsqu'il est fissuré, ce cadmium va venir sortir du téléphone, passer la peau qui est une membrane mais qui reste perméable, et c'est un perturbateur endocrinien. Il faut réparer les téléphones portables cassés.
On ne le laisse pas comme ça.
Ouais. Et puis après, on met une coque de protection une fois que c'est réparé. Parce que souvent, ça arrive, hein, les adolescents, les enfants, ils font pas attention, ils les cassent. Bref, réparer les téléphones portables.
Jimmy Mohamed est sur TikTok, donc avec des conseils pendant le mois de Ramadan et des conseils santé. Vous publiez Jimmy Zéro Contrainte, surtout ne changez rien. Votre éditeur, c'est Flammarion. Patrick, vous le montrez à la caméra. Vous pourrez d'ailleurs écouter l'émission en podcast et revoir la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Jimmy.
C'est un plaisir, merci Philippe.
Patrick, on vous retrouve très bientôt. Très belle journée de santé pendant ce mois de Ramadan sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.